Bonjour à tous. Monsieur le technicien, le son est bon? C'est correct? Parce qu'on m'a dit qu'il y a 3 semaines, le son était trop fort, c'était agressant. Donc, je lui ai demandé ce matin d'ajuster le son, de sorte que ceux qui veulent dormir, bien, je n'aurai pas besoin de vous réveiller. Je voudrais juste vous dire aussi, je ne sais pas si vous réalisez, mais des fois, comme disent les jeunes, je trouve ça un peu capotant. On enseigne le dimanche matin, nos propos sont enregistrés, c'est disponible sur le site Internet de l'Assemblée, et toute la planète peut nous écouter. Des fois, ça m'empêche de dormir. Alors, je me dis, je suis mieux d'être bon, parce que je risque d'être chahuté par toute la planète. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Alors, c'est la septième et dernière des sept lettres écrites par le Seigneur à des églises d'Asie mineure. Alors, nous allons lire « Écrit à l'ange de l'église Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, je vous rappelle que l'action, si je peux dire, des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse se déroule en Asie mineure. Alors, je vous rappelle, là, l'Asie mineure, c'est cette pointe-là qui fait partie de la Turquie actuelle. Et ça, c'est l'Empire romain au temps du Nouveau Testament. Donc, l'action se situe ici. Si on regarde la carte suivante, on a les sept églises de l'Apocalypse. Alors, ce matin, on est ici, l'église de Laodicée. Patmos, d'où Jean a écrit, est ici. Si on regarde la carte suivante, on a dit que ce n'était pas un hasard si les cartes se retrouvaient, pas les cartes, mais les lettres se trouvaient dans cet ordre-là. Mais il y avait un circuit routier qui faisait en sorte que le courrier postal, si on peut dire, se livrait de cette façon-là. Et voilà pourquoi les lettres se retrouvent dans cet ordre-là. Donc, vous avez ici une autre carte plus précise. Donc, je rappelle qu'on est ici. Et je vous signale, regardez la ville de Colosse à côté, et Hierapolis, on va y revenir dans quelques instants, mais Laodicée était vraiment la dernière des lettres. Alors, voilà donc le contexte géographique où se situent les sept églises de Apocalypse 2 et 3. Comme je l'ai mentionné il y a quelque temps, les sept lettres sont construites selon le même canevas qu'on a vu quand on a étudié l'église de Sardes. Et ce matin, je vais encore une fois respecter ce même canevas-là, parce que je pense que c'est une bonne façon de faire le tour de l'essentiel de la lettre en respectant le texte, en ne faisant pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Donc, je commence par le premier point, qui est une adresse, une salutation. Alors, ici, je me concentre plus particulièrement sur le début du verset 14, où il est écrit « Écrit à l'ange de Laodicée ». Alors, on a dit, moi et mes prédécesseurs, que l'ange, c'était généralement compris comme étant le ou les responsables humains des églises, ici, celui ou ceux de l'église de Laodicée. Et il s'adresse à Laodicée. Je trouve que c'est important de prendre quelques minutes pour présenter la ville de Laodicée, de bien situer le contexte de cette lettre-là, parce que quand on connaît le contexte, on comprend mieux après le message qui est donné à l'Église et les travers dans lesquels avait sombré l'Église en question. Alors, on l'a vu rapidement avec les cartes. Laodicée était située dans la province romaine de Phrygie et elle faisait partie avec Colosse et Hiérapolis d'un petit groupe de trois villes. Et ce qui caractérisait Laodicée, c'est que c'était une ville extrêmement riche, la plus riche des sept villes énumérées dans Apocalypse 2 et 3. C'est une ville très prospère et elle tirait sa prospérité de trois sources. Premièrement, elle occupait une position géographique stratégique à l'intersection de grands axes de communication, des routes achalandées, et c'était devenu, il y avait beaucoup de gens qui passaient par là, qui arrêtaient, des gens qui venaient de différents pays, et il s'était développé une industrie bancaire importante. C'était un peu la Suisse de ce temps-là, il y avait beaucoup de banques, des gens qui faisaient l'échange, la conversion des devises, et c'était une... Alors, on le voit ici, le carrefour routier dont je vous parlais. Alors, Laodicée ici. Alors, vous voyez, vous avez des routes qui partent vers l'intérieur, des routes qui partent vers Éphèse, des routes qui partent vers en bas. Donc, sa position stratégique à ce grand carrefour autoroutier-là faisait en sorte qu'il se brassait beaucoup d'affaires. Il y avait du commerce, il y avait des banques. Et c'était très favorable d'un point de vue économique, cette position géographique particulière. Deuxièmement, Laodicée était très riche parce qu'il y avait à proximité, on faisait l'élevage d'une race de moutons qui donnait une laine noire, luisante, et une laine qui était douce, qui était soyeuse, une laine de qualité supérieure, ce qui avait amené le développement d'une importante industrie du textile à Laodicée. Alors, on prenait cette laine-là et on confectionnait des manteaux, des étoffes, des costumes, des tapis. Alors, on avait vraiment réussi à s'enrichir à Laodicée à cause de ces ateliers de couture qui produisaient des produits de très haute qualité qui étaient vendus dans le monde de l'époque. Et c'était vraiment une activité économique extrêmement importante pour Laodicée. Et c'était une deuxième source d'enrichissement. Une troisième source d'enrichissement, c'est qu'il y avait à Laodicée une importante faculté de médecine. Alors, vous savez qu'à l'époque, les maladies des yeux étaient fréquentes. Les gens ne portaient pas de verre fumé. Il y avait de la poussière dans l'air. Les normes d'hygiène à l'époque n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Évidemment, il n'y avait pas de lunettes, il n'y avait pas de verre de contact, il n'y avait pas d'ophtalmologiste qui nous opère les yeux. Quand les gens avaient des cataractes, eh bien, il n'y avait rien pour les opérer. Mais on avait développé, à Laodicée, il y avait une école de médecine qui avait développé un fameux médicament, un collyre, un genre d'onguent, des gouttes pour les yeux. Et c'était commercialisé dans tout l'Empire romain. Et c'était une troisième source de richesse pour Laodicée qui tirait donc beaucoup de revenus de cette activité-là. Donc, Laodicée était une ville industrieuse, nantie de banques, fière de sa faculté de médecine. C'était une ville riche avec de nombreux temples, des théâtres, un stade, des gymnases. C'était la ville des gens riches et célèbres. Si on voulait être quelqu'un, si on voulait être « in », il fallait rester à Laodicée. Bref, c'était le Trois-Rivières de l'époque. Mais Laodicée avait un point faible. Laodicée avait un point faible, c'est qu'elle n'avait pas d'eau. Elle n'avait pas d'eau. Alors, évidemment, quand on n'a pas d'eau, ça ne va pas bien. Et quand on n'a pas d'eau, il faut aller en chercher ailleurs. Alors, c'est ce que Laodicée faisait. Il y avait à Hiérapolis, à environ 10 kilomètres au nord, des gisements d'eau qui sortaient de la terre, mais c'était de l'eau très chaude, à 95 degrés Celsius. C'était de l'eau minérale. Alors, quand vous avez des problèmes de rhumatisme, des maux d'eau, qu'est-ce qu'on fait en général? On va prendre un bon bain chaud. Et c'est ce que les gens faisaient à l'époque. Les gens se rendaient à Hiéropolis parce qu'il y avait de l'eau chaude qui provenait de sources minérales. Il y avait des problèmes de peau, des maladies de peau, d'eczéma, des rhumatismes. Alors, ils allaient à Hiéropolis où il y avait des stations thermales. Les gens se baignaient dans ces sources d'eau chaude-là. Et c'était extrêmement intéressant et profitable pour Hiéropolis qui avait de l'eau, puis de l'eau chaude. À Colosse, à 15 km à l'est, là, il y avait de l'eau froide, de l'eau qui était pure, de l'eau qui était buvable, de l'eau qui désaltérait. La Odyssée était donc entourée, si on regarde sur les cartes, donc je voulais mentionner, alors on voit ici la Odyssée, il y a de l'eau chaude à Hiéropolis, il y a de l'eau froide à Colosse, mais à la Odyssée, il n'y a pas d'eau. Alors, qu'est-ce que les gens devaient faire? Bien, c'est qu'ils devaient importer leur eau. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aqueduc souterrain, il n'y avait pas de pompe. Donc, l'eau, on devait la faire venir par gravité. Et on devait importer l'eau au moyen d'un long aqueduc à ciel ouvert. Alors, un aqueduc à ciel ouvert, quand il y a des criques, quand il y a des dénivellations, bien, il faut que tu construises des ouvrages pour que la pente soit continuelle. Alors, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient construit des aqueducs. Alors, c'est un prototype, ce n'est pas nécessairement l'aqueduc qu'il y avait à la Odyssée, mais il y avait des ouvrages d'art qui avaient été construits comme ça pour amener l'eau à la Odyssée. Alors, sur le haut de ces ouvrages d'art-là, juste en haut aussi, il y a un... Alors, vous voyez ici, l'eau circule dans ce genre de passage-là. Et ça, c'est à ciel ouvert. Alors, parfois, les oiseaux survolaient ces passages-là et ils laissaient des cadeaux en passant. C'était la poussière à l'occasion et aussi, c'était le soleil qui réchauffait l'eau. Alors, quand l'eau arrivait à la Odyssée, bien, c'était une eau qui était plus ou moins propre, plus ou moins potable et c'était une eau qui avait été réchauffée par le soleil. Donc, eux autres, il n'y avait pas une eau bouillante comme à la Odyssée où les gens se baignaient pour... soigner leur rhumatisme, leur maladie de peau. Et ce n'était pas une eau froide, comme à Colosse, buvable. Eux autres, ils devaient se contenter d'une eau tiède à la Odyssée. C'était une eau tiède et elle était tellement mauvaise au goût que souvent, les gens en la buvant vomissaient littéralement, tellement que l'eau était dégueulasse. Alors, voilà donc la position de la Odyssée. Une ville très riche, mais dépourvue en eau, qui doit importer son eau des villes voisines et qui doit se contenter d'une eau de mauvaise qualité. C'était une ville tellement riche qu'elle avait été détruite par un tremblement de terre, la Odyssée. Et vous savez, quand arrive une inondation ou une tornade, qu'est-ce que les gens font? Ils crient à l'aide au gouvernement. Hein? « Donnez-nous de l'aide, on a besoin d'aide, on a eu des inondations ou des glissements de terrain. » Bien, la Odyssée avait été détruite par un tremblement de terre, puis elle n'avait pas demandé l'aide, puis le gouvernement romain était allé lui en offrir, elle avait dit « Non, merci, on n'a pas besoin, on est assez riche, on va s'organiser seul. » Alors, elle avait littéralement refusé l'aide des Romains lorsqu'elle avait été détruite par un tremblement de terre. Et l'historien Tacite nous dit, et c'est rapporté dans des livres d'histoire des historiens profanes, dit « La Odyssée se releva de ses ruines par ses propres ressources et sans aide de notre part. » Lui, il parle d'un point de vue du gouvernement romain. Et on nous dit qu'il y avait partout sur les immeubles à la Odyssée une mention, une plaque en bronze qui disait « Par nos propres forces, on a reconstruit ça par nos propres forces. » Partout, on avait cette mention-là gravée dans les édifices « Par nos propres forces. » Alors, les gens de la Odyssée étaient fiers de leur richesse, fiers de leur succès. C'est des gens qui avaient tendance à se péter les bretelles. C'est des gens qui se pensaient fins, qui se pensaient bons. Ils en étaient rendus vaniteux, fanfarons. C'était pratiquement devenu insupportable. Ils étaient riches, ils le savaient, et ils se débrouillaient tout seuls dans la vie. Ils n'avaient pas besoin de personne. Ça, c'est le contexte de Laodicée. Ça, c'est le contexte dans lequel évoluait l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée, ce qu'on peut déduire, c'est qu'elle existait depuis environ une trentaine d'années au moment où ce passage a été écrit dans l'Apocalypse. Il en est brièvement question dans l'Épître aux Colossiens. Maintenant, le Seigneur se présente ici, et il se présente au verset 14b en disant « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Donc, le Seigneur se présente ici en utilisant trois caractères, trois facettes de sa personnalité. Le Seigneur dit tout d'abord qu'il est l'Amen. Alors, quand Adama dit « Amen », on l'entend. Qu'est-ce qu'Adama nous dit à travers ça? C'est vrai, c'est exact. Je suis d'accord avec ça. C'est juste. Donc, « Amen » est une expression qui traduit qu'on adhère à quelque chose, bien sûr, mais on adhère à quelque chose parce que c'est vrai, parce que c'est exact, parce que c'est juste. Alors, le Seigneur se présente à l'Église de Laodicée en disant, « Regarde, moi, je suis celui qui est vrai. Moi, je suis celui qui dit la vérité. Moi, je suis celui sur lequel tu peux compter parce que je suis fiable, fidèle. » D'ailleurs, c'est ce qu'il répète en d'autres termes, un petit peu plus loin. Il le dit, « Je suis le témoin fidèle et véritable. » Alors là, il y a comme une association. C'est comme si le Seigneur dit par deux fois à peu près la même affaire. « Amen », ça veut dire « vrai ». Ça veut dire que c'est vrai, c'est fiable, c'est la vérité. Et il le répète ici en disant, « Je suis un témoin fidèle et véritable. » Alors, qu'est-ce que ça fait un témoin quand on va en cours? Un témoin, ça, c'est censé dire la vérité, juste la vérité et toute la vérité. Et c'est ce que le Seigneur ici dit, se présente à Laodicée, à l'Église de Laodicée, en disant, « Voici, je suis celui qui va dire la vérité dans ce qui suit. » Et finalement, le Seigneur se présente à l'Église comme étant le principe de la création de Dieu. Il se désigne comme l'auteur, la source, l'origine, l'agent actif de la création. Alors, le Seigneur établit au départ clairement, fermement, qu'il a autorité pour dire ce qu'il va dire. Et là, il va être question du bilan de ce qui plaît au Seigneur. Mais ne cherchez pas de verset, il n'y en a pas. Dans cette lettre à Laodicée, ce qui fait la différence par rapport aux autres lettres, c'est qu'il n'y a aucun commentaire positif. Il n'y a aucun éloge. Il n'y a pas de félicitation. La situation est tellement dramatique que c'est une lettre qui est carrément menaçante à l'égard des membres de cette Église. Le Seigneur regarde l'Église et il n'y a aucun sujet de réjouissance, il n'y a pas motif d'adresser des félicitations à cette Église-là. Au contraire, il regarde l'Église, il est inquiet et il va faire état de ce qui lui déplaît dans cette Église de Laodicée. Il va s'adresser à l'Église de Laodicée, il va lui faire deux grands reproches. Alors, le premier reproche est au verset 15 et 16. Le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Jésus connaissait tout sur les personnes qui fréquentaient l'Église de Laodicée. Il connaissait leurs faits, leurs gestes, leurs paroles, leurs actions, leurs intentions, leurs motivations, leurs pensées, leurs œuvres. Il connaissait tout ce qu'il y avait à connaître sur ces gens qui fréquentaient l'Église de Laodicée. Et le Seigneur ne nie pas que cette assemblée a des œuvres. Il connaît les œuvres de l'assemblée. Donc, ce n'était pas une Église paresseuse. Ce n'était pas une église où les gens se tournaient les pouces. Ce n'était pas une église où il n'y avait rien qui se passait. Le Seigneur a dit, non, je connais tes œuvres. Il se passait quelque chose. Les gens accomplissaient quelque chose. Mais ce quelque chose-là, manifestement, ne plaisait pas au Seigneur, n'était pas à la hauteur de ses attentes. Plusieurs ont pensé que les adjectifs « froid » et « bouillant » que l'on retrouve ici dans le texte référaient à la température spirituelle des membres de l'Église de Laodicée et que par conséquent, le Seigneur, c'est comme s'il préférait les gens froids qu'on assimilait aux athées, aux agnostiques, aux impies, aux incrédules, aux incroyants et aux chrétiens tièdes, genre croyants mais non pratiquants. Alors, les gens, on a eu tendance à départager ça et à faire dire au texte, bon, ben les froids, là, c'est les impies, c'est les incroyants. Les bouillants, c'est les gens qui sont zélés. Puis les tièdes, ben c'est les gens entre les deux, là. Les gens qui, ce qu'on entend souvent dans la religion populaire, je suis croyant, mais je suis non pratiquant. Mais c'est parce que les gens, en faisant ça, attribuent une connotation négative à froid et positive à bouillant. Je ne pense pas que lorsque les gens qui fréquentaient l'église de Laodicée ont lu ça, je ne pense pas que c'est ça qu'ils ont compris, eux autres. Je pense que ce qu'ils ont compris, eux autres, c'était l'allusion évidente à l'eau. L'eau de Hiéropolis qui était bouillante, elle sortait de terre à 95 degrés, elle était très utile pour soigner les maladies de peau, les rhumatismes, l'arthrite, etc. Et l'eau de Colosse qui était froide, qui était potable, qui était vivifiante, énergisante. Puis eux, à Laodicée, ils devaient se contenter d'une eau tiède qui était tellement mauvaise au goût qu'elle donnait juste envie de vomir. Voilà, je pense, comment il faut comprendre que ces concepts de froid et bouillant, le Seigneur ici, lorsqu'il parle que froid et bouillant, je pense qu'il fait allusion à la grande faiblesse de Laodicée. Alors, à Laodicée, donc, il ne pouvait pas profiter d'une eau thérapeutique et chaude comme à Hiéropolis, ni de l'effet désaltérant de l'eau de Colosse. Il faut voir froid et bouillant comme étant toutes les deux des choses positives. Et ce que le Seigneur souhaitait, c'est que l'Église de Laodicée ait un impact rafraîchissant, désaltérant, vivifiant, comme l'eau froide, ou l'impact thérapeutique, bienfaisant, apaisant de l'eau chaude. Malheureusement, l'Église de Laodicée n'avait ni un ni l'autre. Alors, Jésus voit comme une ressemblance entre la situation qui prévalait au niveau de l'eau disponible à Laodicée et les œuvres de cette Église-là. Alors que l'eau chaude soigne et que l'eau froide désaltère et source de vie, bien l'eau tiède provoque des hauts le cœur, donne envie de vomir. L'Église de Laodicée ne procurait ni rafraîchissement pour ceux qui étaient spirituellement fatigués, ni guérison pour ceux qui étaient spirituellement malades. Elle était totalement inefficace et ça, le Seigneur ne pouvait pas supporter ça. L'Assemblée chrétienne de Laodicée n'est pas reprise à cause de sa température spirituelle, pardon, mais à cause de la médiocrité de ses œuvres. Le Seigneur ne lui reproche pas un manque de ferveur, mais il dit « tes œuvres sont imbuvables ». Autrement dit, toi, l'Église de Laodicée, tu n'es pas la lumière du monde, le sel de la terre. Tu ne joues pas le rôle que tu devrais jouer. Quand on a chaud, qu'est-ce qu'on aime faire? Avoir un breuvage froid. Et quand on a froid, qu'est-ce qu'on aime avoir? Un breuvage chaud pour se désaltérer. Mais l'Église de Laodicée, elle était comme un breuvage tiède. Elle n'avait pas d'influence parce que ses œuvres étaient de mauvaise qualité. Ses œuvres étaient inutiles pour Dieu. Donc, il faut se garder de dire que Jésus veut que les Laodicéens soient zélés, bouillants, ou complètement indifférents, froids. Mais pas entre les deux. Parce que ça reviendrait à dire que le Seigneur souhaite, dans le fond, que les Laodicéens soient comme... C'est mieux qu'ils soient perdus, froids. Alors moi, personnellement, je suis incapable de concevoir et d'imaginer que le Seigneur souhaitait que les Laodicéens soient froids dans ce sens-là. Et appliquer des adjectifs froids ou bouillants à la température spirituelle d'une église, d'une personne, je ne pense pas que c'était compris comme ça dans l'église primitive. Et j'aimerais aussi souligner, on l'a vu tout à l'heure, pour amener l'eau à Laodicée, il y avait des aqueducs, des ouvrages d'or qui amenaient l'eau. Et quand les gens voulaient faire la guerre, quand on fait la guerre, c'est quoi la première stratégie qu'on fait? On lâche des bombes pour détruire les infrastructures de base. La guerre en Afghanistan et en Irak, qu'est-ce qu'on fait? On fait sauter les ponts, on fait sauter les aéroports, et on fait sauter les centrales électriques, et on fait sauter les réservoirs d'eau potable. Et un coup, tu as fait ça, les gens sont dans la misère et ça ne prend pas de temps qu'ils se rendent. Alors, l'église de Laodicée était vulnérable parce qu'elle n'avait pas d'eau. Alors, quand les envahisseurs voulaient envahir Laodicée, il y avait juste à couper l'eau. Et ça prenait quelques jours, il y avait juste à attendre, les gens se rendaient assoiffés par manque d'eau. Donc, l'église de Laodicée était un peu comme la ville de Laodicée où elle était. Eh bien, quand tu te sens vulnérable, et c'est ce que les gens de Laodicée étaient, ils étaient vulnérables parce qu'ils n'avaient pas d'eau, donc ils s'étaient rendus des gens accommodants, des gens qui faisaient des compromis. Ils ne voulaient pas déplaire à personne pour ne pas perdre leur source d'approvisionnement. Alors, ils étaient ni pour ni contre, bien au contraire. Alors, c'est un peu la mentalité de Laodicée, la ville, et c'était devenu la mentalité de Laodicée, l'Église. Et les conséquences de leur conduite étaient les mêmes que la tiédeur de l'eau. Le Seigneur voulait les vomir de sa bouche. Les œuvres de l'Église de Laodicée avaient sur le Seigneur le même effet que l'eau tiède. Le Seigneur regardait les œuvres de l'Église de Laodicée et il les trouvait désagréables, répugnantes. Le Seigneur regardait l'Église de Laodicée et il avait envie de vomir. Le Seigneur regardait l'Église de Laodicée et il disait « Tu me rends malade ». Notre passage attribue au Seigneur un sentiment qu'on voit nulle part ailleurs dans la Bible. Le Seigneur n'est pas en colère. Le Seigneur n'est pas attristé. Le Seigneur est dégoûté au point d'en avoir la nausée et de dire, garde, l'effet que tu as sur moi, là, ça me donne envie de vomir. Le Seigneur est écœuré de ce qu'il voit dans l'église de Laodicée et il dit, je te vomirai. Pas « je veux te vomir », mais je suis sur le point de te vomir tellement que c'est désagréable ce que je vois dans l'Église. Et le deuxième reproche qu'il fait à l'Église de Laodicée au verset 17, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » L'Église de Laodicée se disait, les gens se regardaient dans le miroir et ils se trouvaient beaux, ils se trouvaient fins. Le Seigneur dit, tu dis, toi, Église de Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà comment on pensait dans l'Église de Laodicée. Avec ce que je vous ai dit sur la ville de Laodicée, qui était une ville riche, fière de sa richesse, vaniteuse, qui se pétait bretelles, qui avait dit au gouvernement romain, « Non, 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 on vient de vivre un tremblement de terre, mais on n'a pas besoin de ton aide, on n'a pas besoin de tes subventions, on va s'organiser tout seul. » Voyez-vous que la mentalité de la ville de Laodicée avait pénétré dans l'église de Laodicée. Ces gens-là étaient loin de se frapper la poitrine, la tête basse, et de dire au Seigneur, « Oh, sois apaisé envers moi, que je suis un pécheur. » Ben non, ça va bien, Seigneur. Ça va tellement bien, Seigneur, qu'on n'a pas besoin de toi. Je me demande si on peut appeler ces gens-là des chrétiens. Alors, le Seigneur avait dénoncé les œuvres de Laodicée qu'il ne trouvait pas à son goût. Et là, le Seigneur dénonce cette Église-là à cause de sa suffisance. Cette Église qui s'estimait riche de toutes sortes de façons, son orgueil, le Seigneur dénonce cela. Il est facile de se croire à l'abri quand on est riche, quand on est jeune, quand on est en bonne santé. Il est facile de se croire spirituellement à l'abri, hors de danger. L'Église de Laodicée était satisfaite d'elle-même. Je n'ai plus besoin de rien, je n'ai rien à apprendre. Ça va bien, on est dynamique. L'esprit de la ville avait pénétré l'Église d'une manière très dangereuse. On était autosatisfait, on s'autofélicitait. Mais l'analyse que les gens qui fréquentaient cette Église-là faisaient d'eux-mêmes est extrêmement différente de l'analyse que le Seigneur en faisait. Et là, le Seigneur va leur administrer un électrochoc. Le Seigneur va briser leurs illusions, va faire voler en éclats leurs prétentions. Le Seigneur va leur dire, au verset 17, « Tu ne sais pas, chère Église de Laodicée, mais l'analyse que tu fais de ta situation, c'est tout à fait inexact, c'est désastreusement inexact. Tu te leurres par rapport à ton état véritable. Tu es au bord du précipice de l'apostasie. Tu n'es pas conscient de ta misère. Tu ne sais pas. C'est terrible. Quand ils ont lu cette lettre-là, ils ont eu une baffe et une bonne en plein visage. Le Seigneur dit, détrompez-vous. Ça ne va pas si bien que ça dans votre Église, chers amis. Cessez d'être dans l'erreur. La vérité, là, c'est que tu es pauvre. Tu es pauvre malgré ton argent. Tu es nu malgré l'abondance de tes vêtements, de tes tissus, de ton industrie textile. Tu es aveugle malgré ta faculté de médecine, malgré tes ophtalmologues, malgré le médicament que tu produis, que tu commercialises dans l'Empire romain, tu es aveugle. Et le Seigneur va lui dire, tu es misérable. C'est la seule église des sept à qui le Seigneur va dire cela. Tu es misérable. Tu manques de tout, mais tu n'en es pas consciente. Tu vis dans l'illusion. Tu as la tête dans les nuages. Alors, le Seigneur utilise cinq adjectifs pour parler à l'Église de Laodicée. Ça a dû être comme cinq coups de canon. Bang, bang, bang. Il lui dit tour à tour, voici ta situation. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, ces gens qui étaient si fiers, si hautains, qui se pétaient bretelles, ils ont reçu du Seigneur comme message, « Tu ne vaux pas cher à mes yeux, Assemblée chrétienne de Laodicée. » Et là, le Seigneur va leur lancer un vigoureux appel à la conversion. Le Seigneur va lui dire de faire un examen de conscience. Alors, le point 5, une exhortation à la repentance, une parole d'encouragement au verset 18. Le Seigneur va dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Tu as des banques, tes banques sont pleines d'argent. Tu devrais acheter de l'or divin. Tu fais des beaux vêtements, tu as une industrie textile florissante, tu fais le commerce partout de tes vêtements. Tu devrais acheter de moi des vêtements blancs afin d'être vêtu. Et tu devrais acheter de moi un collyre. Hein? Tu produis un onguent dans ta faculté de médecine que tu commercialises, qui te rend célèbre. Mais tu devrais acheter de moi un collyre. Évidemment, le Seigneur ici parle un peu au figuré. Le Seigneur aurait pu détruire instantanément, d'un simple claquement de doigts, cette église. J'ai presque le goût de dire cette prétendue église. Mais non, le Seigneur lui dit, je te conseille, Et je trouve ça intéressant, le Seigneur dit, il ne dit pas « je t'ordonne ». Non, je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi ce que tu as de besoin. Et le Seigneur lui dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » C'est extraordinaire, une église si dégueulasse. Le Seigneur, il l'aime encore. Il l'aime encore. Il aurait bien pu dire, « Ben, regarde, je ne veux plus rien savoir de toi. Je ne veux plus rien savoir de toi. » Mais le Seigneur dit, « Regarde, moi, là, je te dis tout ça, là, pas pour être désagréable. Je te dis tout ça parce que je t'aime. Puis je voudrais que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Ton état est tellement écœurant que j'en ai la nausée. Mais malgré ça, je t'aime. » C'est assez extraordinaire de voir l'amour du Seigneur à l'égard de cette Église-là, qui n'en était vraiment pas digne. Sixièmement, un appel solennel à tenir compte de tout ce qui vient d'être dit. Le Seigneur dit au verset 22 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors le Seigneur dit, faites attention à ce que je viens de vous écrire, c'est sérieux. Et le Seigneur leur fait finalement une promesse de récompense au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, le Seigneur est là, il est disponible, il est prêt à fraterniser avec les gens de la Odyssée. Alors, quand on lit ce verset-là, le verset 20, on a l'impression que les gens de la Odyssée avaient mis le Seigneur dehors de l'Église. On a l'impression que les gens avaient mis le Seigneur dehors de leur vie. Parce qu'il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Tu tiens la porte pas pour sortir, tu tiens la porte pour rentrer. Donc, les gens c'était tellement éloigné du Seigneur qu'on a l'impression que le Seigneur est dehors, qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, il y avait comme plus de place pour le Seigneur. Et c'est intéressant parce que les historiens nous rapportent que quand les Romains étaient allés à la Odyssée, l'armée romaine, ils n'avaient pas mis des gants blancs, eux autres. Eh bien, ils s'étaient imposés. Et les citoyens de Laodicée devaient nourrir de force les soldats romains, devaient les vêtir de force et devaient même leur donner une redevance pour leurs petites dépenses. Ça, c'est ce que l'armée romaine avait fait. Le Seigneur, lui, ne s'impose pas. Le Seigneur, lui, il veut que les gens l'accueillent volontairement. Contrairement aux Romains qui s'étaient imposés, qui avaient agi durement. Alors le Seigneur est là, il frappe et il dit, si quelqu'un, eh bien le Seigneur est prêt à rentrer. Et on a ici résumé tout l'Évangile, le Seigneur qui est à la porte, le Dieu suprême, le Créateur de l'humanité, il frappe à la porte de chaque être humain et il dit, garde, si tu m'ouvres la porte de ton cœur, ben je vais entrer, je vais souper avec toi et toi avec moi, on va avoir de l'intimité ensemble. On va cultiver une relation ensemble. Il y a dans la cathédrale Saint-Paul à Londres un tableau d'un peintre anglais qui s'appelle William Holman Hunt. Et cet individu, ce peintre britannique, a vécu de 1851 de 1827 à 1910. On dit de William Holman Hunt que c'était un peintre qui s'était fixé comme objectif d'exprimer par sa peinture, sous forme accessible au plus grand nombre, certaines vérités essentielles concernant le destin humain. Lui, il a décidé de faire une peinture qui allait illustrer ce verset 20-là. Il a illustré le Seigneur Jésus qui se tient à une porte et qui frappe. Je comprends que ce n'est pas clair, là, mais vous comprendrez que c'est une peinture qui a 150 ans. Donc, lorsqu'elle a été exposée pour la première fois, les gens ont dit, « Hey, M. Hunt, ça ne marche pas votre tableau. Ça ne marche pas. » Ils ont dit, « C'est bien beau, là, vous avez plein de petits détails, là, on ne les voit pas, mais le Seigneur est ici avec une couronne d'épines, il y a une lanterne qui est là. » Et le Seigneur est ici, il frappe. On dit, « Monsieur Hunt, vous vous êtes trompé quand vous avez fait votre peinture. Il n'y a pas de poignée. » Non, non, il dit, « Je ne me suis pas trompé. J'ai fait exprès. La poignée, elle est à l'intérieur. » Oups. La poignée, elle est à l'intérieur de la maison. Et la porte, il faut la rouvrir de l'intérieur. Alors, je vois que le temps file, je vais aller à la conclusion tout de suite. Je vous avouerai franchement que je me suis posé comme question pendant des semaines, quelle réaction ont dû avoir les gens de l'église de Laodicée quand ils ont reçu cette lettre-là, qu'ils l'ont lue, qu'ils l'ont étudiée comme nous on a fait ce matin? Je ne sais pas, mais ça a dû leur donner un électrochoc. Moi, j'aimerais vous faire quatre remarques ce matin. Les gens de l'église de Laodicée avaient une très haute opinion d'eux-mêmes, à tel point que Dieu ne faisait plus partie de leurs préoccupations. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, vivent comme si Dieu n'existait pas. Pourquoi? Bien, les gens pensent que le développement économique va les sauver. Particulièrement à Trois-Rivières, on pense ça. Le développement économique va nous sauver. Va nous sauver de quoi? De la pauvreté, du chômage, etc. Les gens pensent que la science va les sauver de la maladie. Les gens pensent que la psychologie va les sauver de leur mal-être. Les gens pensent que la politique va les sauver de l'injustice. Peut-être que, comme les gens de Laodicée, vous fréquentez l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine. Puis peut-être que vous avez à votre crédit de nombreuses réalisations, des œuvres, mais que vous ne vivez plus dans la dépendance du Seigneur. Vous ne cherchez plus la volonté de Dieu pour votre vie. Vous contrôlez vous-même votre vie. C'est vous qui décidez seul ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Souvent, quand ça va bien, quand on a du travail, quand on est en santé, on devient comme en paix, une fausse tranquillité d'esprit, puis on devient comme spirituellement négligent. Et ça ne prend pas de temps qu'on en arrive à penser qu'on n'a plus besoin de Dieu, de sa grâce, qu'on peut se débrouiller tout seul. Êtes-vous indépendant à l'égard du Seigneur ou dépendant de lui? Deuxième remarque, qu'en est-il de votre acuité visuelle? Qu'en est-il de votre capacité à vous voir lucidement, humblement, honnêtement? Vous savez, il y a la personne que vous souhaiteriez être. Peut-être que comme moi, vous aimeriez être musicien, chanteur, bricoleur. La personne que vous souhaitez être. Il y a aussi la personne que vous êtes vraiment, que vous pensez être, pardon. Vous pensez être un bon cuisinier, vous pensez être un conjoint attentionné, vous pensez être un employé dévoué. La personne que vous souhaiteriez être, la personne que vous pensez être, il y a aussi la personne que vous êtes vraiment, anxieuse, impatiente, gloutonne. Peut-être qu'il y a aussi la personne que les autres pensent que vous êtes. Les autres pensent que vous êtes au-dessus de vos affaires. Les autres pensent que vous êtes une personne bavarde, toujours en retard ou je ne sais pas quoi. Et il y a finalement la personne que Dieu voit, personne menteuse, rancunière, insatisfaite, etc. Les gens de Laodicée, les autres, ils se voyaient, vraiment ça va bien notre affaire, on l'a l'affaire, on n'a besoin de personne. Mais quand le Seigneur les voyait, les regardait, le Seigneur leur dit, c'est épouvantable votre situation. Qu'en est-il de votre acuité visuelle? Avez-vous ouvert la porte de votre cœur au Seigneur Jésus? Alors, on l'a vu tout à l'heure à travers le tableau, le Seigneur dit qu'il frappe à la porte. Il vous appartient d'ouvrir la porte. Le Seigneur ne rentrera pas dans votre cœur par effraction. Le Seigneur ne défoncera pas la porte. Le Seigneur ne brusquera pas les choses. Le Seigneur est là, puis il frappe. Est-ce que vous faites la sourde oreille à son toc-toc? Est-ce que vous entendez? Et si vous entendez, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la porte de votre cœur? Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alors, est-ce que le toc-toc de Dieu retentit ce matin à la porte de votre cœur? Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la porte de votre cœur à Jésus? Et finalement, s'il y avait une huitième lettre, une lettre à l'Église de Cap-de-la-Madeleine, une lettre à l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette lettre-là? Si le Seigneur nous écrirait, nous avait écrit, qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait mis dans la liste de nos forces? Qu'est-ce qu'il aurait mis dans nos faiblesses, dans nos carences? Et s'il y avait une neuvième lettre, le Seigneur t'écrivait à toi, là, personnellement, qu'est-ce qu'il écrirait dans la lettre? Prions. Notre Dieu, rien n'est caché, rien n'est couvert devant tes yeux. Tu vois tout, tu sondes les reins et les cœurs. Et ton regard pénètre au plus profond de nous-mêmes et nous sommes conscients de notre nudité, de notre misère, de notre besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Et loin de nous l'idée de jeter une pierre à ces gens de l'Église de Laodicée. Au contraire, on se reconnaît en eux et on en appelle à ta grâce, à ta bonté. Donne-nous d'être lucides à l'égard de nous-mêmes. Notre Dieu, nous prions pour que nos œuvres te plaisent. Montre-nous ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux et que nous puissions appliquer toutes nos facultés à être le sel de la terre, la lumière du monde, à ne pas être des chrétiens aux œuvres fades, tièdes, sans goût. Notre Dieu, garde-nous d'être pénétrés de l'esprit du monde comme l'était l'Église de Laodicée. Seigneur, donne-nous d'être sévères à l'égard de nous-mêmes parce que tu es le Dieu trois fois saint. Et nous voulons honorer cette sainteté, nous voulons nous-mêmes être saints dans toute notre conduite. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.